Nous briserons toutes les barrières causées par les sanctions grâce à nos capacités techniques et scientifiques, a déclaré le commandant en chef du corps des gardiens de la révolution islamique au Ségéri lors de la cérémonie du dévoilement du vaccin iranien Noura, tenue ce dimanche 27 juin. Le général Hossein Salami a déclaré qu'aucune nation n'atteindrait le sommet du progrès sans parcourir le trajet pavé d'embûches. Nous sommes engagés dans une lutte pour protéger notre indépendance. Bien que le monde ait décidé de nuire à notre indépendance, nous sommes pourtant déterminés de la protéger. Lors de son discours, le commandant en chef du Ségéri a confirmé l'information selon laquelle la variante britannique du coronavirus a été vaincue avec succès par le vaccin iranien. Le commandant en chef du Ségéri a déclaré que ceux qui crient à la démocratie et au progrès s'intéressent de voir nos enfants malades mourir dans les bras de leur mère et c'est pour cela qu'ils nous ont bloqué toutes les voies d'acquisition et de médicaments et de vaccins. Ce qu'ils souhaitent pour notre nation est la pauvreté, la maladie et l'effondrement. Le général Salami a continué. Une nation qui est arrivée à enregistrer de telles gloires en étant sous le coup des sanctions en matière d'économie et de technologie est sûrement une nation extraordinaire. Et d'ajouter, après la propagation du coronavirus dans le monde, les grandes puissances croyaient que nous irons nous effondrer. Mais nos infirmiers et nos médecins ont enregistré une grande victoire à ce propos. Les résultats des vaccinations COVID-19 à grande échelle de la population peuvent fournir des informations précieuses aux puissantes firmes étrangères à des fins intéressées. Le général Salami a souligné que les Iraniens avaient décidé de se placer parmi les meilleurs dans tous les domaines. Nous avons réussi à construire des drones à fuselage large qui sont en mesure d'assurer un vol de 7000 km et d'atterrir à tout endroit. Le commandant en chef du Ségéri a déclaré que le vaccin produit par l'Iran serait également remis à la disposition de la couche démunie d'autres pays. Après une abstention historique lors du premier tour des élections régionales et départementales, les Français ont de nouveau boudé les urnes ce 27 juin. Selon les premières estimations divulguées à 20h en France, l'ensemble des présidents de régions sortants ont été réélus lors de ce second tour de vote marqué par une abstention quasi record. Ainsi, l'intrigue de la soirée, à savoir une éventuelle victoire de Thierry Mariani et Rennes en PACA, ne s'est pas réalisé. Selon les estimations Ipsos Sopra pour France Info, le taux d'abstention a atteint 65,7% sans surprise. Pour rappel, seuls 36% des Français ont exprimé leur intention d'aller voter selon un sondage IFOP pour le journal du dimanche. Plus de 45 millions de Français ont été appelés aux urnes pour le dernier rendez-vous électoral avant la présidentielle de 2022. Le duel entre le Rassemblement national et les Républicains dans la région PACA ont constitué l'un des enjeux principaux, étant estimé que le RN avait de fortes chances de diriger une région pour la première fois. Son candidat Thierry Mariani a reçu 36,38 des votes lors du premier tour, alors que le président sortant, Ronan Muselier, est arrivé deuxième avec 31,91%. Toutefois, les estimations tombées à 20h jettent à l'œil cette hypothèse. En vertu des estimations, tous les présidents sortants des régions ont été réélus. À 17h, la participation dans les régions se présente comme suit. Corse, 48,61%. Provence, Alpes, Côte d'Azur, 32,95%. Occitanie, 31,33%. Bourgogne-Franche-Comté, 30,98%. Bretagne, 30,64%. Nouvelle-Aquitaine, 30,56%. Normandie, 28,67%. Centre-Val-de-Loire, 27,54%. Hauts-de-France, 27,39%. Pays de la Loire, 26,87%. Auvergne-Rhône-Alpes, 26,63%. Île-de-France, 23,67%. Grand Est, 22,32%. Selon les estimations estimations de l'Institut ELAP avec SFR Business effectué pour BMFTV en début de soirée, l'abstention serait à 65%, soit pratiquement identique à celle enregistrée lors du premier tour. 27,89% de participation à 17h, en très large hausse par rapport au premier tour. À l'instar du premier tour des régionales et départementales caractérisées par une abstention record, le second, bien que plus décisif, n'éveille pas non plus d'intérêt chez les Français. Le taux de participation s'élevant à seulement 27,89% à 17h. Selon les estimations, le taux d'abstention à ce second tour se situe entre 64,3% et 65,5%. De nouveaux dysfonctionnements dans la distribution des professions de foi ont été signalés après que des problèmes de distribution de la propagande électorale lors du premier tour ont été massivement signalés. Des électeurs font part de nouveaux soucis. Certains n'ont pas reçu de liste pour les régionales et départementales, alors que les autres en ont été abondamment livrés dans la Meuse, indique le Républicain Lorrain. Des internautes postent les clichés de couac de la distribution de tracts électoraux. Un habitant de Besançon en Bourgogne-Franche-Comté dit avoir reçu des prospectus de candidats du Grand Est. En publiant une photo d'une boîte aux lettres vide, le député de la France insoumise, Adrien Katen, s'est adressé à Jean Castex et à Gérald Darmanin et à Marlène Schiappa pour les interroger sur l'organisation des élections. À midi, le taux de participation régionale et au départemental s'affiche à 12,66%, indique le ministère de l'Intérieur, contre 12,22% à la même heure pour le premier tour. Il s'agit d'une chute de 7 points par rapport au régional de décembre 2015, 19,59%, et de 3 par rapport au départemental de mars 2015, 15,72%. Mediapart a relayé de nouveaux détails concernant l'affaire du vaste trafic d'armes démantelé en France au mois de janvier, affaire dans laquelle sont entre autres impliqués deux militaires. Dans l'affaire de ce vaste réseau de trafic d'armes en France, l'une des personnes mises en examen était le chauffeur militaire au cabinet de Florence Parly, la ministre de la Défense. Celui-ci était le conducteur personnel de Madame la ministre. Selon les révélations de Mediapart, il ne s'agit que de l'une des plusieurs failles de sécurité. S'il était connu que l'un de ces trafiquants présumés travaille au ministère des Armées, c'est l'enquête du journal qui révèle qu'il côtoyait de manière quotidienne les hautes autorités car étant chauffeur au cabinet de Florence Parly. L'enquête a également permis de faire surgir d'autres problèmes, comme des ordres supplémentaires non payés auxquels ont été confrontés les conducteurs affectés auprès du cabinet de la ministre des Armées. Mais la question qui se pose est la suivante. Ce trafiquant d'armes était-il protégé par Florence Parly? C'est en juillet 2020, 6 mois avant l'éclatement de l'affaire de trafic d'armes, que le caporal chef S avait reçu le poste conducteur au service logistique du cabinet de Madame Parly. Le futur mis en examen escortait donc la ministre sur certains de ses déplacements, selon un de ses anciens collègues, précise le site d'information. Interpellé en janvier 2021, il a été mis en examen des chefs d'accusation, détention, cession et transport en réunion d'armes de catégorie 1 et 3 et d'association de malfaiteurs, a précisé à Mediapart une source judiciaire. Ne souhaitant pas commenter l'affaire, le ministère a tenu à préciser auprès du média que s'agissant d'une procédure judiciaire en cours, il coopérerait pleinement avec la justice sur ce dossier. Et d'ajouter qu'à l'issue d'une enquête visant à livrer l'habilitation secrète de défense, l'homme en question l'avait obtenue. Au sein du ministère, a été également assuré que le caporal chef en question s'était vu retirer immédiatement ses droits d'accès et ses habilitations dès que le ministère des Armées a été informé par les services de police de l'enquête pour trafic d'armes. Or, poursuit Mediapart, comment une enquête d'habilitation a pu passer à côté des éléments qui, quelques mois plus tard, lui voudront une mise en examen. Le désormais ex-chef d'état-major français, général Lecointre, c'était un visionnaire car avant son départ à la retraite, il avait prédit que la France allait renouer en quelque sorte avec les grandes manœuvres, mais avec des effectifs évidemment beaucoup moins importants que par le passé. Nous prévoyons d'organiser en 2023 un exercice dénommé Orion, qui sera multimilieu, interarmé, interallié de niveau divisionnaire, et qui impliquera 17 000 à 20 000 hommes et 500 véhicules de l'armée de terre, deux porte-hélicoptères amphibies, le porte-avions Charles de Gaulle pour la marine et 40 avions de l'armée de l'air et de l'espace. Avait résumé le général Lecointre lors de sa dernière audition au Sénat en qualité de chef d'état-major des armées SEMA. Et voici la suite de son discours. Il nous faut acquérir des moyens permettant de garantir la cohérence d'ensemble et la maîtrise par les armées de la force dans des environnements moins permissifs. Et il a ajouté qu'il était nécessaire de renforcer les activités notamment de l'armée de terre et de l'armée de l'air et de l'espace en augmentant les heures de vol de chasse et les heures d'entraînement sur blindés à partir de 2022. Pour le SEMA, de telles manœuvres sont une manière de signifier notre détermination. Elle constitue aussi une autre façon de contrer des stratégies hybrides, car dans cette confrontation de volonté, nous devons penser que chacune de nos actions peut être et doit pouvoir être interprétée par nos compétiteurs et par nos ennemis. Or, a-t-il poursuivi être capable de conduire un exercice de haute intensité participe de cette volonté de signifier à nos compétiteurs que nous nous défendons, que nous agissons et que nous sommes capables de contrer ces actions et d'enfoncer le clou. Les exercices que cette préparation nous amène à réaliser constituent en eux-mêmes une forme de démonstration de puissance, donc de confrontation. Reste que depuis maintenant plusieurs années, la Russie organise régulièrement des manœuvres de grande ampleur, comme cela sera encore le cas avec celles appelées Zapad 2021, qui auront lieu en Biélorussie en septembre prochain. L'OTAN n'est pas non plus en reste, avec des exercices d'une ampleur qui n'avait plus été vue depuis la fin de la guerre froide. Une ère nouvelle commence où les porte-avions nucléaires seront envoyés par le fond. Le porte-avions à propulsion nucléaire américain Gerald R. Ford, CVN-78, a subi le premier test de résistance en Atlantique. Le test, le premier du genre depuis 34 ans, a été effectué le 18 juin 2021 à plus de 160 km au large de Palm Coast en Floride. Une charge de près de 20 tonnes d'un très puissant explosif, mais rien n'est moins sûr. L'explosion de la charge aurait causé une secousse tellurique d'une magnitude de 3,9 sur l'échelle ouverte de Richter. Ce test est le premier d'une série de trois tests visant à évaluer la résistance de la coque et des structures du porte-avions à un choc dans un scénario de combat relevant d'un conflit de très haute intensité avec un ennemi disposant de forces équivalentes. En d'autres termes, la Fédération de Russie et la République populaire de Chine. Des informations convergentes indiquent que les militaires américains disposent de nouveaux types d'explosifs, induisant de nouveaux phénomènes physique, assez méconnu jusqu'ici. On ne sait pas si un explosif de ce type aurait été utilisé en Atlantique ou même ailleurs, car les effets de ces explosifs de nouvelle génération ne ressemblent pas a priori à ceux des explosifs connus. Ce sujet est fort sensible et continue de relever du secret défense. Ce qui est certain est que tout autre pays qui aurait conduit un test similaire aurait enclenché une gigantesque campagne médiatique synchronisée de dénigrement mettant en avant la destruction de la vie et de la faune marine, une détérioration de l'environnement des oiseaux migrateurs et même une atteinte au champ gravitationnel dans la zone de test. Ces tests démontrent que le Pentagone prend très au sérieux la menace réelle pesant sur les groupes de l'aéronaval américain et qu'il se prépare en conséquence en simulant des tirs d'armes nucléaires tactiques contre des porte-avions en plein océan. Ce qui pourrait par ailleurs survenir si un groupe aéronaval américain tenterait de s'approcher un peu trop des côtes nord-coréennes. Un scénario de plus en plus probable avec la propension de certaines élites dirigeantes dépourvues d'expérience militaire à la provocation dangereuse. La récente provocation navale britannique contre la Russie en Ukraine, non loin de Sébastopol, aurait pu aboutir à l'envoi par le fond du destroyer britannique HMS Defender D-36 à coup de missiles air-surface d'avions d'attaque russes de type Sukhoi-24.